Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Au cours de l'histoire de France, il est arrivé que des mariages royaux soient de monumentales erreurs de casting lourdes de conséquences. Celles dont fut victime Isabelle de France, fille unique de Philippe le Bel et sœur de trois rois de France successifs, fut sans doute l'une des plus spectaculaires. C'est ce triste mariage entre Isabelle de France et Édouard, un roi d'Angleterre et Marie qui lui préférait la compagnie de ses favoris, que je vous raconte dans ce récit en deux parties. Seconde partie, la reine se rebelle. Depuis 1308, Isabelle de France est reine d'Angleterre, mais une reine mal mariée, unie à un roi qui, s'il accomplit son devoir dynastique en lui donnant quatre enfants, ne lui préfère pas moins ses favoris. Isabelle avait pu à grand-peine s'accommoder de Gaveston, mais avec son successeur, Hugues Despenser, ce sera tout simplement impossible. Gaveston disparu, les époux se rabibochent un peu. Et Isabelle déploie beaucoup d'efforts pour réconcilier Édouard et ses barons. Elle leur écrit lettre sur lettre. Hélas, Édouard a tôt fait de remplacer Gaveston par un favori pire que lui à tous égards. Son jeune neveu Hugues Despenser. Bon, inutile de s'apesantir sur les détails de cette nouvelle amitié, elle est en tout point semblable à celle qu'avait eue Édouard avec Gaveston. Même cause, faveur, titres et privilèges éhontés accordés aux nouveaux favoris, mêmes effets, exaspération de la noblesse anglaise qui ne songe plus qu'à une seule chose, se débarrasser d'un roi dont le règne est jugé désastreux. En ce qui concerne Isabelle, la situation avec Hugues Despenser est bien pire qu'avec son prédécesseur. Hugues est devenu une sorte de roi supplétif qui décide de tout. Il prend la haute main sur les possessions anglaises d'Isabelle qu'il confisque. Il fait emprisonner tous les Français de sa suite et la prive de ses plus jeunes enfants. Indignée, la reine écrit à son frère, roi de France, qu'elle est traitée comme la dernière des servantes dans le palais de son époux. Mais bientôt, elle ne peut même plus s'exprimer librement car ses lettres sont lues. À l'avènement de Charles IV, dernier fils de Philippe le Bel, les relations entre la France et l'Angleterre se détériorent brusquement. Édouard tente par tous les moyens d'échapper à la cérémonie d'hommage à laquelle il doit se soumettre, étant le vassal du roi de France pour ses terres de Gascogne. Par mesure de rétorsion, Charles s'empare de ses possessions en Aquitaine. Isabelle est donc chargée de se rendre en France pour y obtenir du roi son frère qu'Édouard soit dispensé de cette cérémonie qu'il juge humiliante. Ah, parce que le défaut d'hommage d'un vassal, c'est une chose très grave. Après des années d'absence, Isabelle retrouve son pays d'origine où elle n'était pas revenue depuis plus de 10 ans. Enfin, la voici loin de cette cour anglaise où elle est quotidiennement humiliée, loin de Despenser et de son mari qu'elle hait autant l'un que l'autre. Elle va parvenir à négocier un traité de paix, d'ailleurs favorable à la France. Traité au terme duquel Édouard II accepte de rendre hommage à son suzerain, non pas en personne, mais en envoyant son fils de 13 ans le faire à sa place. Cet événement est capital. Le futur Édouard III rend hommage au roi de France. Mais à la mort de ce roi, qui surviendra en 1328, il pourra légitimement prétendre lui-même au trône de France, puisqu'il sera alors le dernier petit-fils de Philippe le Bel. Et c'est alors que les Français ressortiront fort opportunément du placard une très ancienne loi, dite loi salique, privant les femmes de l'accession au trône. Or, Édouard III descend de Philippe par sa mère Isabelle. Ce conflit dynastique sera l'une des causes de la guerre de Cent Ans, qui débutera en 1337. Édouard II a commis une lourde erreur en envoyant son fils en France, car Isabelle, désormais entourée des siens de tous les Anglais réfugiés en France, opposée au roi d'Angleterre, comme elle a sous la main son fils aîné, héritier en puissance de la couronne anglaise, eh bien elle va déclarer qu'elle ne remettra pas les pieds en Angleterre tant que les Dispenser n'en seront pas chassés. Et pour faire bonne mesure, après 17 ans d'un mariage pas vraiment épanouissant avec Édouard, elle retrouve à Paris un certain Roger Mortimer, baron de Wigmore, puissant seigneur des marches galloises, mais surtout opposant d'Édouard, qui va devenir son allié, et le croit-on, son amant. Ah, enfin, enfin, un homme aimant et qui, pour elle, est prêt à tout. Lorsque l'on a été un fan de la série Les Rois Maudits, diffusée dans les années 70, on a vibré avec la belle Isabelle de France lorsqu'enfin elle découvre le véritable amour. Et sachant ce qu'elle avait enduré en Angleterre, on avait bien du mal à lui en vouloir d'avoir cédé avec le beau Mortimer aux tentations de l'adultère. Enfin, ne nous emballons pas, l'histoire nous dit qu'Isabelle de France conclut avec lui une alliance, mais devinrent-ils vraiment amants ou Maurice Druon a-t-il imaginé cette liaison? Moi, personnellement, j'ai envie d'y croire. Alors pour la suite, justement, je vous renvoie à la lecture des Rois Maudits. Mais disons en quelques mots qu'Isabelle, accompagnée de Mortimer et de son fils, va partir en septembre 1326 à la reconquête d'une Angleterre au bord du chaos, où Édouard est alors plus que jamais impopulaire. À tel point d'ailleurs que la plupart de ses vassaux refusent de se battre pour lui. Le roi se voit dans l'incapacité de réunir une armée et ses propres serviteurs s'enfuient. Abandonné de tous, Dispenser et lui-même sont finalement arrêtés par le duc de Lancastre fin octobre. Le 24 novembre, Dispenser est exécuté très cruellement, place du marché à Londres, en présence de la reine et de Mortimer. Il est pendu, châtré, puis écartelé. Une chance pour lui que les opérations n'aient pas eu lieu dans un ordre différent. Pour le roi, alors là, c'est une toute autre histoire qui, aujourd'hui encore, continue de faire couler des litres d'encre. On va l'obliger à abdiquer en faveur de son fils. Ce fils est jeune, Isabelle pense pouvoir le contrôler longtemps encore. Mais on ne saurait courir le moindre risque d'un retournement de situation. Exécuter Édouard, évidemment, ce serait la bonne solution. Mais il est roi de droit divin, sa personne est sacrée. Et dans la mentalité d'un chrétien du Moyen-Âge, attenter à la vie du roi est un crime abominable. Un roi désigné par Dieu ne peut être légalement déposé. On décide donc dans un premier temps de l'emprisonner à vie. Le Parlement consent à ce que le roi soit démis, si celui-ci l'accepte aussi formellement. Édouard accepte d'abdiquer le 24 janvier 1327 en faveur de son fils. Destitué, il est ensuite tondu, comme on le faisait depuis la nuit des temps pour les rois déchus. Le lendemain, son fils de 14 ans est proclamé roi sous le nom d'Édouard III. Par la suite, Édouard II sera assassiné, probablement par des créatures d'Isabelle et de Mortimer. Un billet très équivoque est adressé à ses geôliers. La formule latine, dépourvue de ponctuation, peut en être interprétée de deux manières. Soit on la lit « Eduardum occidere nolite timere bonum est », qui signifie « il est bon de craindre de tuer Édouard », autrement dit, de ne pas le faire. Soit on peut le lire « ne craignez pas de tuer Édouard, car c'est une bonne chose ». Ainsi, les rédacteurs du billet pourront-ils prétendre ne pas avoir été compris? Quoi qu'il en soit, ces geôliers ont considéré qu'il leur était demandé d'exécuter le pauvre Édouard, ce qui fut fait dans la nuit du 11 octobre 1327. Une dizaine d'années après cet événement, un chroniqueur nommé Higden écrivit que le roi avait été tué « cum veru initio inter celinda confosus », c'est-à-dire avec un fer rouge dans le fondement. Thomas More allait reprendre cette même version des faits en précisant qu'on avait utilisé pour ce faire un tube de métal qui devait éviter les brûlures visibles au cas où le corps aurait été examiné et faire passer cette mort pour naturelle. Vrai ou faux, dans les trois premières années qui suivirent la mort du roi, il fut plutôt fait état d'une mort par étouffement ou par strangulation. Mais la légende noire d'une mort administrée par voie de fer rouge fit floresse, sans doute parce qu'elle suggérait l'idée réconfortante pour de bons chrétiens que, somme toute, oui, c'était le roi, mais enfin c'était un mauvais monarque et qu'il avait péri par là où il avait péché. Paradoxalement, cette mort en martyr contribuera à sa réhabilitation post-mortem. Et nombreux seront les croyants à venir se recueillir sur le magnifique tombeau édifié par son fils à son intention à Westminster. Débarrassée de son fâcheux mari, Isabelle de France ne profitera pas pour autant bien longtemps de son Mortimer, 4 ans de bonheur tout au plus. Son propre fils, Édouard III, humilié de voir le pouvoir accaparé par l'amant de sa mère, finira par faire exécuter celui-ci 3 ans plus tard, en 1330, en vertu de nombreux chefs d'accusation, dont celui de régicide. Édouard laissera la vie sauve à sa mère, mais exigera qu'elle se retire loin de Londres. Elle mourra bien des années plus tard, le 23 août 1358, à l'âge de 63 ans, dans la sinistre forteresse de Castle Rising dans le Norfolk. Sur le site internet de ce spectaculaire château fort, qui de nos jours est plus ou moins en ruine, on peut lire que, contrairement à une légende tenace, Isabelle vécut ici dans des conditions agréables et même dans une grande opulence. Elle disposait d'un important personnel et d'une magnifique bibliothèque. En outre, elle n'était en aucun cas prisonnière, mais libre de ses mouvements. En revanche, toujours selon le site officiel du château, ces dernières années auraient été assombries par de violentes crises de démence, au cours desquelles ses serviteurs devaient l'enfermer dans une chambre au mur nu, blanchie à la chaux. Ne s'agit-il pas, plus vraisemblablement, d'une grosse dépression liée à la mort de son amant ? Quoi qu'il en soit, dans le très sérieux ouvrage consacré par Richard Jones au château hanté d'Angleterre et d'Irlande, il est longuement question du « Ghost of Queen Isabel of Castle Rising », son fantôme en somme. Le donjon, nous dit-on, est aujourd'hui encore hanté par le fantôme d'Isabelle de France. Et lorsque l'on se promène dans les couloirs du château, on peut entendre l'écho de ses cris hystériques. Aux petites heures du matin, poursuit Richard Jones, les habitants du village voisin seraient fréquemment indisposés par ces ricanements maniaques. Non mais vraiment, les Anglais sont d'un désobligeant. Alors voilà qui soulève tout de même une grave question. D'où vient qu'Édouard II, pourtant mort dans des conditions atroces, repose en paix, nul n'ayant signalé son fantôme dans les corridors de Westminster? Là où l'âme d'Isabelle erre encore douloureusement dans les couloirs glacés de Castle Rising. Peut-être parce qu'entre Édouard et Isabelle, ce ménage si mal assorti, seul Édouard connut une vraie passion amoureuse et se livra corps et âme à l'homme qu'il aimait, illustrant magistralement ce beau vers de Musset. Aimer est le grand point. Qu'importe la maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Bibliographie. Les Rois Maudits, roman de Maurice Druon, aux éditions Plomb. Les Rois Maudits, l'enquête historique, par Colette Beaune et Éric Le Nabour, 2005. La Guerre de Cent Ans, par Jean Favier, aux éditions Fayard, 1980. Un drame à la cour de Philippe le Bel. Les Tragiques Amours des Princesses, par le duc de Levis-Mirepoix, Historia numéro 265, 1968.